vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Laval, il y a ceux qui y grandissent et ceux qui rêvent ailleurs, et puis ceux qui partent, qui reviennent, et qui décident que finalement ici, il y a encore plein de choses à inventer. Aujourd'hui, on parle musique, on parle de cette envie d'allumer des lumières, de faire vibrer des murs, de rassembler les gens autour d'un riff de guitare ou d'une basse qui résonne sous les pieds. Léo Boufflet fait partie de ceux qui organisent, qui tendent l'oreille, qui programment, qui s'agitent pour que la ville ne s'endorme jamais tout à fait. Il a grandi ici, bercé par les sons, par les concerts entre potes, par cette énergie brute des premiers groupes, des premières scènes. Il aurait pu tracer une autre route, ailleurs, rester sur la route d'ailleurs, à jouer les chefs d'orchestre dans l'ombre, à régler les balances et les échos pour d'autres. Mais il est revenu, et depuis il sème, il fabrique, il invente. Des lieux, des soirées, des moments où la musique devient ce qu'elle doit être. Un espace de partage, de découverte, d'émotions pures. Parce que dans la musique, dans la nuit, dans la fête, dans tout ce qu'il construit, c'est ça qui compte. Ce qui est vrai, ce qui est vivant. Dans votre émission quotidienne, aujourd'hui, on prend le temps, on déroule la bande-son de son parcours, on parle de Laval d'avant et Laval d'aujourd'hui, de ceux qui font bouger les choses, des petites scènes aux grands élans collectifs. On s'installe, on écoute, on voyage. Léo Boufflet est avec nous et on va parler musique. Et c'est le grand format dans la JT. Léo, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci à vous de m'inviter.
Tu es une figure incontournable de la scène musicale lavalloise entre ton rôle de programmateur, ta présidence de l'association Party Teuf et ta passion pour la musique et la photographie de ce que j'ai vu, mais tu vas m'en dire quelques mots. Alors j'aimerais qu'on prenne le temps aujourd'hui d'explorer ton parcours, tes projets et ta vision pour la culture à Laval. Peut-être pour commencer, comment est-ce que la musique est entrée dans ta vie et quel est ton premier souvenir marquant par rapport à ça ?
C'est rentré dans ma vie, je pense, assez facilement comme plein de gens grâce à mes parents. C'est, j'avoue que pour le coup, assez chanceux d'avoir des darons qui s'y intéressaient et qui aimaient vraiment ça. Premier souvenir marquant, je pense que c'était forcément sur des routes de vacances. Genre, à l'époque, j'ai plus le nom de ce que c'était comme voiture, mais un espèce d'espace familial avec lecteur cassette et c'était des cassettes des Beatles, quoi. Vraiment assez classique, mais j'en garde un souvenir assez marquant. Je pense que je devais avoir 5-6 ans, je pense, dans ces eaux-là, quoi.
T'as grandi à Laval, comment l'environnement culturel de la ville a peut-être influencé ton cheminement justement dans ce parcours musical ? Est-ce que Laval, quand t'as grandi, quand tu t'es construit, était riche de ça ? Ou est-ce que c'est une envie, toi, justement, que tu as eue plus tard de reconstruire ça ?
Je pense que, à la taille de la ville, je pense que c'est riche. Enfin, c'était déjà riche. En tout cas, moi, j'ai grandi avec les Trois Éléphants. Enfin, premier festival que j'ai fait, où maintenant je suis membre du CR en plus, mais ce sera pour plus tard sûrement. le premier festival c'était en 2008, c'est pour l'arrivée au centre-ville, enfin l'arrivée à Laval plutôt, parce que du coup ils étaient d'abord à la Plaine d'Aventure. Et moi c'est le premier festival que j'ai fait, et le 6x4 est arrivé un peu dans la foulée, et que moi j'ai découvert un peu après, parce que j'avais 13 ans en 2008, donc du coup bon, les salles de concert à cette époque-là, j'étais déjà allé avec mes parents en tram, mais voilà, ça, j'y allais pas souvent à l'époque en tout cas, alors que maintenant j'y passe mes jours et mes nuits, clairement. Mais voilà, soit Laval ou la Mayenne, c'est quand même un département quand même très riche malgré sa taille et ce qu'on peut en dire ailleurs. En vrai, c'est quand même hyper intéressant comme département où il s'y passe vraiment, vraiment plein de choses et les gens sont déterrés pour faire plein de choses. C'est chouette.
Et donc la musique, c'est aussi des groupes ou un groupe que tu as créé quand t'étais plus jeune.
Ouais. Genre j'ai eu plusieurs groupes, mais marquant c'est pas le terme non plus, mais j'ai eu un groupe au lycée qui s'appelait Discord. Enfin c'était vraiment un groupe de lycée. Pour le coup, musicalement, on était plus dans une veine screamo, donc c'est une tranche, enfin une branche en tout cas, punk, du hardcore, enfin c'est un peu dans ce style-là. C'était à l'époque, donc plutôt 2009-2010. C'était vraiment, moi je rentrais au lycée et à cette époque-là, il y avait des groupes comme Birds in Row, As We Draw, toute cette frange-là en fait qui se créait. Et du coup, des gens qui étaient un poil plus vieux que moi. Et en fait, on s'est rencontrés, on allait à leurs concerts, enfin c'était des orgas DIY. En tout cas, c'est un peu là que tout est né dans cette passion de vouloir faire de la musique. Pas forcément en tant que musicien ou technicien ou autre. Vraiment, je savais que je voulais travailler dans ce milieu-là, quoi. Et c'est un peu comme ça que c'est né. Donc finalement, comme quoi, des fois, un groupe de lycée peut devenir quelque chose d'autre après, quoi.
Merci.
Et donc, ta formation, ensuite, c'était en tant que technicien son. Dans ton parcours, j'ai pu voir aussi que tu as été tour manager.
Ouais. Alors ça, du coup, tour manager, c'est vraiment un métier très technique. En fait, c'est au même titre que le technicien son, le technicien lumière ou enfin d'ailleurs technicienne ou enfin autre. Le tour manager c'est un peu la personne qui va chapeauter la tournée. Donc du coup c'est lui qui se met en relation avec les salles dans lesquelles le groupe va être accueilli, etc. C'est vraiment c'est le tour manager, je sais pas comment dire, le régisseur.
Tu fais vraiment le lien entre le groupe et puis la tournée.
Et la tournée, c'est toi qui envoies les mails à tout le monde pour prévoir les dates. Alors il nous faudra ci, il nous faudra ça. J'ai besoin de tant de dragibus noir et tant de bouteilles d'eau. Enfin voilà, c'est ce genre de truc.
Et donc t'as accompagné plusieurs groupes, ça a été combien de temps dans ta carrière, dans ton parcours?
Je le fais toujours en fait. Je fais plein de métiers en même temps, c'est ça qui est chouette. Et en fait, c'est arrivé un peu plus tard, parce que souvent, c'est aussi pas quelque chose qu'on fait au début, qu'on se dit qu'on veut faire au début. Et en fait, moi, j'aime bien tout ce côté de la régie, en fait. J'aime bien régir les choses, donc organiser, mettre en place les équipes, et voilà, en gros. Et du coup, c'est arrivé un peu après, et je l'ai fait pour quelques groupes. J'ai pu le faire pour Birds in Row pas mal, plus sur les tournées DIY. Et en plus du tour managing, c'était aussi pas mal le merch. En fait, souvent, en fait, c'est quelque chose en tournée où en fait, les groupes qui tournent, en France en tout cas, il y a quand même des moyens qui sont alloués aux groupes d'une façon ou d'une autre pour qu'il y ait des embauches d'équipes, etc. Donc souvent, on va plutôt prendre un technicien son parce qu'on se dit que on a besoin d'un technicien son pour partir en tournée, parce que comme ça, il connaît le son du groupe, il va pouvoir le faire. L'étape d'après, en tout cas, à un certain temps, c'était le technicien lumière ou la technicienne lumière. Et souvent, le régisseur, il avait après, parce que c'était des questionnements que les groupes, en fait, souvent prenaient eux. Genre, moi, j'ai besoin de ça, donc je vais faire mon rider, etc. Donc le rider, c'est le document où il y a toutes les infos qu'on a besoin quand on est accueilli. Et souvent, les groupes prennent ça à leur charge au début. Et sauf que du coup, quand les groupes grossissent, etc., souvent on fait appel à quelqu'un. Ça peut être moi comme plein d'autres, hein, on est plein d'autres à faire ce job, qui est super d'ailleurs, moi j'aime beaucoup.
Et alors, t'es aussi de l'autre côté, puisque tu es aussi programmateur, pour deux lieux, on peut dire emblématiques, à Laval, le Bar La Fosse, et puis la Guinguette, le 11-22. Ces deux lieux qui ont quand même deux identités totalement différentes. Comment est-ce que tu as eu envie déjà de te lancer dans la programmation? Et puis qu'est-ce que ça t'as eu envie d'apporter peut-être aussi à Laval? Comment t'as pensé
ouais, c'est
te
ça,
lancer
c'est
là-dedans
que, du coup, là, on peut revenir un peu en arrière au lycée, quand du coup, on commençait à découvrir du coup, les organisations DIY, comme on les appelle, donc do it yourself. Comme plein de gens font, finalement, l'autre radio, c'est un peu du do it yourself aussi à sa manière. Mais du coup, au lycée, donc je rencontre toute cette team qui est Birds in Row, As We Draw, tous les gens autour, Quentin Sauvé, donc, avec qui on est en coprésidence de l'assaut Party Tough. Donc Quentin Sauvé est quand même souvent en tournée avec ses différents projets, donc j'ai pris un peu la responsabilité propre. En fait, à un moment, quand on ne voit pas ce qu'on fait comme musique, donc plutôt des musiques de niche, que ce soit du hardcore, screamo, post-punk, tout ce qu'on veut, même des fois de la folk, on se dit qu'on va le faire nous-mêmes parce que c'est plus simple. Parce qu'en fait, des fois, il y a aussi ce truc qu'on est mieux servi par soi-même que rien faire. Et puis, en fait, c'est chouette de faire des trucs. on s'est retrouvé à organiser des concerts dans les bars à partir de ce moment-là, et ça existait déjà avant. Parce que les artistes, ça fait 50 ans qu'il y avait des concerts, donc les artistes, anciennement, la fosse, anciennement les artistes. Et voilà, donc en gros, c'est un peu parti de là. Donc ça fait finalement presque 15 ans que. Moi, ça fait un peu moins de 15 ans. Et pour Quentin, ça fait au moins 15 ans. Et puis que ça a toujours été. L'organisation de concerts a toujours été un truc à Laval, surtout dans ce truc de DIY. Et donc moi c'est un peu né de là et depuis que j'ai 16 ans en gros je fais des orgas de concert à peu près.
Et là, justement, si on parle des deux lieux, donc il y a La Fosse, mais le 11-22, déjà le 11-22 a dû s'est réinventé au niveau de son identité.
Tout à fait.
Donc je pense que la programmation que tu proposes participe aussi clairement à
ça. Oui, tout à fait. Bah, le 11-22, donc la nouvelle entité de la guinguette de la halte, forcément, s'est réinventé parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de proposition. C'était surtout une halte fluviale et très portée sur le cyclotourisme. Enfin, il est très porté là-dessus. Enfin, en tout cas, il y avait du passage vachement avec le cyclotourisme parce que du coup, on est au bord d'une route cycliste souvent l'été. Du coup, il y avait vraiment ce truc-là de halte fluviale, petite guinguette, quoi. Et les gestionnaires de ce lieu, Jérémy et Charlie Beucher, localement, ils sont ici. Et en fait, ils passaient comme plein de gens en mode « c'est quand même ouf, il y a un lieu trop bien à Laval. » On aimerait bien un peu le booster, quoi, parce qu'en vrai, là, boire des coups tout l'été, ce serait quand même chouette au soleil. C'est quand même une des plus belles terrasses de Laval, on va pas se mentir.
C'est vrai.
Ça a été ce truc de... on a envie de dynamiser notre ville parce qu'on aime notre ville, on a envie de la faire vivre et qu'il s'y passe des choses parce qu'on est revenu aussi pour ça, parce qu'on l'aimait, mais c'est vrai que, bon, c'est pas non plus la ville la plus dynamique de France, mais il se passe quand même plein de choses et c'est ça qui est chouette. Et c'est chouette d'en faire partie en plus. Et ça, c'est né un peu de... du coup, il n'y avait plus trop de concerts à passer 2016 à Laval pour des raisons de... c'est des envies politiques, gestion de ville, etc. Où il y a eu un truc, en tout cas, de tranquillité. Donc, post-Covid, La Fosse ouvre. Et du coup, directement, Quentin et moi, on est en mode, vas-y, on reprend les concerts, là, c'est le moment... Et il y a eu une réelle envie de redynamiser le truc. Et donc c'est né comme ça, quoi. Middle Child, du coup, c'était le 13 mars 2022. C'était le tout premier concert Party Tough. Donc ça fera 3 ans bientôt et ça va vite quand même. Donc voilà, donc on a mis ça en place. Et du coup, la guinguette est arrivée après, justement, comme je disais avant. En mode bouche à oreille. Ah tiens, il se passe des trucs super là. On va aller là et on va voir ce qui se passe et on va essayer d'intégrer tout ça. Et tout ce beau petit monde ensemble, ce qui est super et ça fait des étincelles, ça fait des chocs à pile.
Et justement, quand on parle de ces deux lieux-là, la programmation est différente. Forcément, tu la penses différemment. Notamment, la guinguette, il y a par exemple du stand-up, c'est-à-dire qu'on sort aussi que de la partie musicale. Comment est-ce que toi, tu choisis ces artistes selon le lieu, peut-être, selon aussi ce que tu as envie d'amener à Laval ?
Eh bien, tout à fait. Alors, il y a ce truc de quand même avoir une espèce de... Enfin, en tout cas, pour ma part, une ligne directrice un peu d'ensemble, malgré tout, parce que c'est aussi... Enfin, je pense que c'est comme n'importe quel programmateuriste, en fait... Finalement, on donne un peu une partie de soi en donnant une programmation. Je pense que tout le monde travaille un peu de la même façon. Enfin, même si je pense que c'est à chaque fois que des personnes qui sont très fans de tout style de musique, on a forcément des affinités et en tout cas des connaissances, même des fois tout simplement. C'est vrai que moi, par exemple, en musique classique, je m'y connais pas super. Vraiment, j'aime bien ça. C'est vrai que j'en écoute pas souvent, mais c'est vrai que je suis très porté plus sur les musiques, disons, actuelles. Enfin, c'est vrai que souvent, on peut faire la distinction entre les deux, alors que pourtant il y a des musiques classiques actuelles aussi, enfin, c'est pour ça que des fois on peut se mélanger. Mais du coup, moi je travaille les deux lieux un peu de la même façon, même si forcément quand je travaille plus pour le Party Tough et du coup à La Fosse, on va aller sur des musiques souvent plus rock et encore il va y avoir quand même pas mal de pop, on a fait du jazz, on a fait du hip-hop, enfin on va vraiment partout, mais sur des trucs en tout cas un peu plus... enfin encore plus niche, ça va être plus, en effet plus pour un public d'avertis, de personnes qui aiment ça et qui vont aller chercher d'eux-mêmes à la guinguette. J'en fais aussi, parce que du coup ça permet en fait la découverte, ça ouvre les gens à d'autres styles musicaux, et etc, etc, etc. Mais en effet, je vais quand même voir ma programmation à la guinguette comme quelque chose de, pour le coup, plus familial, de plus 7 à 77 ans. Enfin, vraiment, pour que tout le monde s'y retrouve au moins une fois dans la saison, et même le plus de fois possible. C'est vrai que quand il y a des groupes ou du stand-up ou autre, on essaye quand même que ce soit multigénérationnel, ce qui fait en fait la force du lieu, je pense.
J'ai pu voir quelque part que tu insistais sur l'importance des petits lieux pour accueillir le public et pour programmer des concerts. Qu'est-ce qui pour toi est différent dans ta manière de vivre justement le live, le concert, peut-être dans un espace plus réduit? Et puis comment peut-être tu penses aussi ta programmation en fonction?
Pour moi c'est ça, c'est que la culture, elle se vit pas qu'à un seul endroit ou dans une seule salle ou dans un seul type. La culture, elle est faite pour tout le monde et elle est pour tout le monde. C'est vraiment ce truc de, faut essayer de ratisser large pour en amagasiner le plus, et après faut faire de tout pour après apprendre à se connaître et apprendre à savoir qu'est-ce qu'on aime, etc.
Quelles sont justement peut-être les difficultés, les défis, en même temps les joies que tu as dans faire vivre une dynamique associative comme ça autour de la musique sur Laval? Parce qu'à la fois, donc, il y a tout ce concept, ces valeurs, tout ça, mais d'expérience concrètement, parce qu'il y a des moments où c'est quand même hyper galère de porter ça, j'imagine.
Ouais, enfin, c'est comme tout, c'est de l'associatif et c'est aussi ça qui est beau. C'est que c'est très chouette de faire vivre ça. Ça fait grandir forcément les gens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'asso. Enfin, que ce soit nous, membres de l'asso, et bon, on est deux, hein, on n'est pas loin de la dictature associative, on va pas se mentir. Mais ça permet aussi d'avancer sur des trucs, quand même d'être pas beaucoup. Et après, il y a quand même des gens autour de nous, bénévoles ou autres amis, qui nous filent des coups de main. Et heureusement, parce que c'est super en fait de travailler quand même dans le commun. Mais des fois, c'est vrai que c'est bien d'être pas beaucoup pour avancer sur des trucs. Ça prend du coup beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est chouette aussi. Et après, on a quand même un vaste public tout autour qui est chouette aussi. En fait, il n'y a jamais rien de compliqué. Enfin, c'est aussi le truc qu'il y a... Enfin, il n'y a jamais rien de compliqué. Il y a forcément des trucs compliqués, mais c'est jamais quelque chose de finalement grave. En fait, on peut sauver des gens en faisant de la culture, dans le fond, quand même. Il y a quand même des trucs où on aide des gens, en tout cas. Mais en tout cas, on ne leur opère pas. Ce n'est pas une opération du cœur à cœur ouvert, tu vois. En vrai, à la fin de la journée, on se couche content parce qu'on a réussi à faire découvrir un nouvel artiste, que souvent, quand les gens sortent, ils sont en mode « Ah, mais c'était trop bien comme concert. Ah, ça, c'était trop bien. Ah, alors ça, j'ai moins aimé, par contre. Mais... » Et en fait, c'est toujours de l'échange, finalement. Enfin, ouais, ce que je disais, c'est vraiment du social, ce qu'on fait, quoi. Et c'est ça qui est trop bien, parce qu'en fait, on crée du lien avec les gens. C'est cool de se retrouver, en fait, dans des lieux de vie, que ce soit, bah, du coup... la guinguette et la fosse, on se retrouve sans écran, sans rien, et en fait on vit un moment tous ensemble, et ça en vrai c'est quand même trop chouette de pouvoir participer à ça et de faire vivre ça.
On parlait de la richesse du territoire d'un point de vue même culturel. Finalement, ce qui est aussi une grande richesse, c'est tout ce lien et je crois ces collaborations entre toutes ces structures, toutes ces associations.
Ouais, je pense que clairement c'est hyper important. Enfin, je pense que comment nous on a imaginé Party Tough, c'est vraiment né grâce au 6x4, à l'assaut Poc Poc, quoi. Moi ça fait quand même maintenant des années que je suis dans l'assaut. Enfin, justement, c'est ce truc de travailler ensemble, quoi, qui est très 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 chouette. Il y a toujours eu ce truc de, en tout cas pour Poc Poc, de valoriser son territoire par les gens qui y sont. Et ça c'est vraiment chouette. Parce qu'il y a toujours eu des release parties d'artistes qui sont locaux pour jouer au 6x4. Il y a quand même toujours eu aussi, du coup moins souvent qu'une fois par mois, mais des collectifs aussi DJ, etc., à travailler au 6x4, à organiser des soirées, à même y jouer tout simplement. Les différents programmateurs, ils ont toujours été là pour les assos locales, donc c'est vraiment super. Il y a un job qui est faramineux là-dessus. Il y a toujours ce truc de bosser tous ensemble, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, les autres collectifs aussi entre eux, parce que du coup, le 6x4 fait un peu ce point central, mais les autres collectifs s'échangent quand même pas mal. C'est que tout le monde essaye de s'entendre pour pas essayer de jouer trop en même temps, et du coup que ça tourne un petit peu, enfin ça c'est aussi chouette quoi. Et je sais que enfin du coup avec Party Tough on fait maintenant aussi un autre point de lien je pense avec toutes ces assos grâce au Tough Sonic et à d'autres événements quoi. Et aussi à la guinguette, on essaye aussi de les faire jouer de façon un peu récurrente pour créer quelque chose de chouette quoi.
Et donc dans ton parcours, il y a eu énormément de voyages justement dans ta vie, peut-être très fort de technicien son, de tour manager également. Aujourd'hui, est-ce que ça te manque? Parce que est-ce que tu peux peut-être moins voyager avec tout ce que tu concentres sur la ville de Laval et
bah,
département?
Et bah tout à fait. C'est vraiment un truc ça. Ça me manque pas forcément parce que je le fais toujours un petit peu. Parce que je suis toujours quand même technicien et régisseur pour des groupes donc ou des compagnies. Parce que maintenant je bosse aussi avec des compagnies de théâtre et autres. Enfin ça fait des années maintenant, mais on évolue quoi. Enfin on fait d'autres trucs. Donc je tourne toujours. Principalement en France maintenant. C'est vrai que pendant un bout de temps j'ai quand même fait beaucoup d'étrangers. J'ai fait beaucoup l'Europe, je fais les États-Unis, le Canada avec mon job, donc c'est quand même super de pouvoir faire ça avec le job. C'est vrai que maintenant je le fais moins pour le travail, je le fais toujours pour le plaisir en vacances. J'adore voyager, ça permet de découvrir d'autres choses, c'est toujours la même chose. Je pense que j'ai vraiment un appétit fort pour la découverte. Et en fait, on découvre d'autres gens, d'autres cultures, d'autres trucs. Et ça, c'est trop bien, en fait, dans la vie. Ça permet de s'ouvrir aussi à d'autres personnes et voir qu'en fait, on est tous pareils, mais tous différents à la fois. C'est vraiment super, quoi. Donc voilà, je voyage moins à cause du job. Mais c'est cool parce que du coup, je fais venir plein de trucs qui nous font découvrir plein de trucs localement. Enfin, je repense là... forcément à Hypnosis Therapy, un groupe coréen qu'on a fait venir, c'était ouf, c'est improbable d'avoir un groupe, enfin c'est improbable, non c'est pas si improbable que ça, c'est quand même plausible, mais d'avoir un groupe coréen à la fosse, trop bien. On a souvent des groupes australiens, on a fait y avoir des groupes russes, enfin biélorusses, des groupes américains, français, anglais, allemands, suisses, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On n'a pas eu d'Amérique du Sud.
Et tu vois, par exemple, je pense à ça, si on parle de hypnosis thérapie, quand toi, tu te dis, tiens, je les ferai venir à la fosse, comment est-ce que tu fais, puisque tu te dis que bah, c'est peut-être pas la...
Ouais, c'est pas la route. C'est pas la route, clairement. Bah, en fait, ça, c'est vraiment... C'est le béaba du job, quoi. C'est qu'en fait, je connais pas tout sur Terre, heureusement. Il y a encore plein de trucs que je connais pas, en tout cas en termes de musique et de plein d'autres trucs, hein, mais en tout cas focus musique, je connais pas tous les groupes qu'il y a, donc en fait je peux pas dire, tiens je connaissais ce groupe depuis 15 ans, j'avais trop envie de les faire venir, ça arrive, ça, c'est un petit pourcentage malgré tout, surtout à notre échelle où en fait on n'a pas non plus des budgets faramineux, on fait vraiment aussi avec qu'est-ce qui tourne, et c'est aussi, ça fait vraiment partie du truc, c'est on est un peu là, nous dans le circuit, petite salle bar-concert, et Guinguette, on est vraiment dans ce circuit, on est là pour aider les groupes qui tournent, donc ils ont un day off, donc c'est un jour où ils jouent pas, on est là pour les aider en mode, ah tiens ça tombe bien dans le routing, vas-y bah tu peux venir jouer ce jour là à Laval et let's go, trop bien quoi. Et en fait ce modèle là permet aussi d'avoir des petites conditions d'accueil et ainsi de suite et ainsi de suite. Je connaissais un des deux parce qu'il il a pas mal joué avec des groupes de K-pop et du coup ça, en fait son nom apparaissait des fois et en fait ça m'a un peu tiqué quand j'ai vu le mail, je fais ça me dit quelque chose ça, et du coup on reçoit beaucoup de mails, genre moi je pense que je reçois entre 150 et 300 mails par mois, c'est en fonction des boîtes mails et juste pour la programmation, pas autre perso et autres, juste pour la programmation ouais c'est entre 150 et 300 mails par mois. Du coup bah là ça fait partie des mails que j'ai reçus avec un tourneur avec qui on bosse beaucoup qui s'appelle Swamp Booking, qui est un tourneur basé en Allemagne qui a vraiment un catalogue que moi je trouve hyper intéressant, qui est vraiment très large et vraiment très niche aussi, donc il y a vraiment plein de groupes de tout style, c'est très musique électronique, rock, dark un peu, mais il y a quand même plein d'autres trucs, et du coup il y avait un mail hypnosis thérapie, j'étais là, bon, attends, c'est quand même improbable d'avoir une propale d'un groupe de UK garage hip-hop coréen. Donc vas-y, let's go. Moi j'ai envie qu'on ait ça. Et c'est aussi le truc, c'est ce que je disais plus tôt, c'est ce truc qu'on y met forcément un peu de nous dans la programmation. Parce que moi, ça me faisait kiffer de voir ça. Et je me dis qu'il y a forcément des gens que ça va faire kiffer de voir ça. Genre, c'est si improbable, ça doit être si ouf. Et en vrai, c'était trop bien, c'était trop marrant à voir. En plus de ça, je m'attendais pas à ce truc-là en le faisant. Je pensais vraiment que ce serait un truc vraiment niché, qu'on serait quatre dans la salle et que vraiment les gens se diraient « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? On sait pas, qu'est-ce qu'on fout là ?» Et en fait, non, il y a des gens qui ont attendu depuis midi parce qu'ils sont trop fans de K-pop. Enfin, vraiment, c'est un truc que je connais pas. Là, je commence à être boomer là-dessus. Vraiment, je suis en mode waouh, je vois de loin, quoi. Mais c'est vraiment en mode ah ouais, il y a des gens qui sont prêts à attendre. Il y a des gens qui sont venus d'Italie. Enfin, vraiment, c'est malade. Il y avait un couple d'Italiens qui était là. Et genre, ils étaient là dès midi. Et genre, nous, on est un bar-concert. Hein. Nous, on ouvre à 16h. On fait les balances vite fait. Et puis voilà, ils sont attendus depuis midi. J'étais là, mais vous êtes fous. Et du coup, je sais plus, on devait être une 60-70, je crois, en tout et pour tout. Et ouais, il y avait 20 personnes qui étaient sur fans, qui connaissaient les paroles par cœur. Et alors que, enfin, c'est pas un groupe très connu, c'est juste que, bah, il y a tout ce truc autour de la K-pop qui gravite et qui fait que, bah, il y a vraiment des fans hardcore du truc, quoi. C'était assez perturbant, ça. C'est vrai que c'est un souvenir assez perturbant. Mais c'était cool, en vrai. Enfin, c'était très très positif et il n'y a jamais eu de problématique ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est dans des salles où on n'est pas habitué, ce truc du rapport aux fans, etc. Parce que bah, on fait que de la découverte principalement. Du coup, bah, en général, les gens ils connaissent pas. Du coup, bah, ou alors quand ils connaissent, ça va, c'est quand même assez réservé. Là, il y a vraiment un truc, c'était quand même. C'était intense, un peu comme fan, quoi.
Ça fait quand même un certain temps que tu organises, tu programmes des concerts à Laval. Quand tu regardes en arrière et que tu regardes un peu dans l'espoir que tu peux avoir pour la ville de Laval, pour le futur, pour tous ces espaces, ces lieux qui accueillent des concerts, quels sont tes espoirs, tes envies, vers quoi ça tend ? Est-ce que c'est en danger aussi avec les coupes budgétaires qu'on entend de part et d'autre, les difficultés associatives ?
Bah, ouais, alors c'est clairement en danger. Enfin, nous autres, enfin, plus, enfin, c'est pas, j'allais pas dire forcément que les autres, mais c'est forcément en danger parce que en France, on a quand même cette exclusivité de la culture, que ce soit subventionné fort, c'est trop chouette. Enfin, le système de l'intermittence, etc. Je vais pas revenir forcément dans les détails de tout ça, mais on est quand même un pays où c'est quand même une chance d'être subventionné et de subventionner la culture parce que ça permet de l'accessibilité de la culture à tous et toutes, ce qui est pas le cas dans plein de pays. Et là, on parle juste de la culture. On parle pas d'émissions locales, on parle pas des radios associatives, on parle pas de tout, du sport. Enfin, juste le sport, c'est quand même malade. Et en fait, bah, les subventions, ça permet juste tout ça. Donc c'est quand même super.
Et Party Teuf qui valorise la diversité, la découverte.
Ah ouais.
Bah, ça permet ça aussi.
Bah, ça permet ça aussi, mais je pense que du coup, c'est ça, c'est que en fait, les subventions, ça permet à qu'on n'a pas besoin d'être rentable. Enfin, en tout cas, alors nous, à notre échelle, c'est encore un autre truc. Là, je fais un truc un peu général où je parle plus du coup des plus grosses salles, donc par exemple comme le 6x4 ou d'autres salles, enfin le Shabada, l'Ubus, c'est plus des grosses salles là qui sont associatives et qui sont subventionnées. C'est des salles qui, si demain elles perdent les subventions, comme là c'est le cas en Pays de la Loire, bah forcément ils vont faire moins de trucs aussi diversifiés. Ils vont faire que des trucs qui marchent entre guillemets. La subvention permet ça sur des salles comme le 6x4, qui est une salle qui embauche des gens. Enfin, en plus de ça, c'est que les subventions permettent l'embauche. Enfin, c'est un moment, c'est sans fin. Il y a toujours des trucs à dire sur pourquoi c'est assez con d'enlever des subventions. Enfin, ça permet des emplois, de la diversité, de la mixité. Enfin, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Nous, dans un cas un peu plus précis, on est une asso où on est bénévole. Donc là c'est vraiment pour le cas du Party Teuf, on est bénévole, on n'a pas beaucoup de subventions, voire pas du tout, mais après ça c'est des choses qui évoluent en fonction des années, etc. On n'en demande pas non plus, on n'est pas très doué pour ça, mais on n'en a pas. Du coup on fait aussi avec les moyens qu'on a, donc c'est-à-dire les entrées, le bar aide un petit peu, enfin voilà, il y a plein de chemins à prendre pour que ça marche plutôt bien. On gagne pas des milliers de cents avec la sauce, de toute façon la plupart des sous qu'on a, on a une petite réserve au cas où, et le reste va au groupe. C'est aussi tout le but de ce qu'on fait. Nous, c'est tout ce qu'on gagne, on le donne principalement au groupe. Et après, ça paye aussi les 2-3 petits trucs qu'on a payés, donc les hôtels, les catering, nanana. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre d'avoir une entrée à prix libre. Enfin, ça rentre aussi dans tout ce truc-là, l'accessibilité pour tout le monde. On l'a pas publié sur Instagram, mais à chaque fois, à l'entrée de nos concerts, on a un truc prix libre. Pourquoi ? Que ce soit politique, économique, nanana. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez voir plus sur le prix libre. C'est vraiment, je trouve, un truc super chouette pour l'équité du public, en tout cas. C'est... tu peux donner ce que tu veux en fonction de ce que tu as et de ce que tu as envie de donner. Donc pour moi, c'est assez super. Et les gens jouent le jeu en plus, donc c'est encore mieux en général. Mais des fois, je me dis que c'est peut-être pas assez rentré dans... C'est quand même un truc qui est pas très commun. Du coup, c'est vrai que des fois, c'est pas assez rentré. En fait, souvent, les gens, ils donnent en gros 5 euros parce que c'est un peu le truc moyen. Mais en fait, si demain, tu as envie de venir voir un concert et que tu es vraiment fauché, tu peux quand même mettre 1, même si la dernière fois, tu as mis 5. Et en fait, des fois, c'est ce parallèle-là qui est un peu compliqué à mettre en place parce que du coup, tu te dis « Ah ouais, mais si je mets pas 5, je vais me faire juger. » Alors que non, en fait... Le but, c'est vraiment de venir au concert et de découvrir des choses. C'est pas de payer forcément. Il y a forcément un besoin à un moment de rentabilité. Enfin, c'est même pas de rentabilité, juste en tout cas de pallier des choses. Et du coup, nous, on n'a pas trop de subventions à Partie Teuf. Donc, on n'est pas trop actuellement emmerdé par rapport à ça. On le sera peut-être un jour. Mais en tout cas, enfin, on le sera un jour dû au fait que d'autres le sont. Parce qu'en fait. Les plus gros vont être embêtés, donc ils vont devoir faire encore du plus gros. Enfin, je caricature un petit peu, mais du coup, ils vont devoir de plus en plus plaire au public et ce qu'ils veulent pour remplir les salles. Du coup, il y aura encore moins de découvertes pour les plus grands publics, et donc en fait, ça va se perdre au fur et à mesure des années, etc. Peut-être que. Ouais, on en voudra que entendre de la chanson française, et en fait, le groupe malien de musique Touareg, on en aura peut-être un peu. Rien à faire ici parce qu'on n'aura pas été habitué à entendre ça et c'est comme ça se fait sur le long terme de toute façon quoi. C'est le jeu, mais on se bat pour justement que ça le soit pas quoi, je pense, enfin que ce soit Partie Teuf ou plein d'autres assos localement quoi.
Et alors pour terminer, toi on peut dire que tu es jeune, hein, moi je considère
oui, je me considère
à
jeune.
Peu près mon âge, donc je vais préférer dire que tu es jeune. Tu es jeune, tu as déjà fait énormément de choses différentes d'un point de vue professionnel. On sent que tu as encore soif de plein de choses, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as des projets futurs ? Tu projettes des nouvelles choses ? Est-ce que pour l'instant tu sens qu'il y a encore énormément à construire dans ce que tu fais aujourd'hui ?
Je pense que ça va être un chemin. Je pense que. Il y a ce truc, donc je suis jeune, ouais, j'arrive sur mes 30 ans. Voilà, j'y arrive. Enfin, malgré tout ce que tout le monde autour de moi pense, non, ça fait pas 10 ans que j'ai 30 ans, alors que c'est ce que tout le monde dit. Mais il y a vraiment ce truc de pas poser les choses, mais je pense que du coup, avec l'arrivée de Partie Teuf, la guinguette, il y a vraiment ce truc où, en tout cas, personnellement, moi, ma direction, j'ai envie qu'elle aille par là. Mais ça va prendre du temps parce que c'est aussi, on est dans des économies, comme je disais juste avant, qui actuellement permettent pas de faire que ça. Je suis pour un cadre plus technique sur la partie guinguette. Moi, je suis déclaré pour mon travail, etc. Enfin, je suis payé. Et pour toute ma partie teuf, c'est toujours bénévole. Mais en même temps, en fait, commencer par là, ça m'a permis du coup d'être salarié intermittent sur la partie guinguette. Donc en fait, on évolue comme ça et c'est ça qui est chouette. Moi, j'ai encore tout mon job actuellement de technicien, régisseur et autres qui me parle toujours. Je pense que post-confinement Covid, ça a été un peu compliqué parce qu'en plus, la culture, ça a été compliqué de se remettre dedans. On a tout le temps été arrêté. Donc pendant 2 ans, j'ai pas exercé mon job. Donc ça a été aussi un peu compliqué, je pense, de se remettre dedans et de se dire qu'il y avait une possibilité future dedans. Alors qu'en fait, quand on est reparti à fond, on est reparti à fond et c'était super. J'étais trop content de retrouver tous les festivals, les salles où je bosse, etc. et tous les collègues et autres. Donc c'est vraiment trop bien. Mais c'est vrai que j'ai aussi amené d'autres cordes à mon arc là-dessus. Et c'est vrai que pour l'instant, allier les deux, j'aime bien. On verra comment ça évolue. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a encore mille choses à faire, que ce soit ici ou ailleurs, mais en tout cas sur Laval, il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui se montent, plein de collectifs, de salles, de trucs. Il y a plein d'envies. Donc peut-être qu'à un moment, il y aura une création de salle et peut-être que je reprendrai une programmation. Qui sait, il y a tellement de choses possibles et imaginables à Laval. Il n'y a pas tout à faire, mais il y a encore tellement de choses à faire. On a une ville super qui demande en tout cas qu'à évoluer et à grandir, quoi.
Et alors, pour terminer, quels sont les prochains rendez-vous de Party Tough ?
Et bah, Party Tough, on a tellement de trucs. En fait, je dis qu'on a réduit, mais en fait, on a quand même plein de trucs. Bah, on a des concerts tout le mois de janvier qui est fini, tout le mois de février, mars, avril, mai, juin à la Fosse. Donc je vais pas tout citer parce que bon, on a quand même plein de trucs, mais on a quoi février, on va avoir Surf Trash que j'ai présenté tout à l'heure, un groupe australien super. On va avoir des groupes angevins, Citron, un groupe suisse, on va avoir des groupes américains, on va avoir le Karaoke Live qui est un autre rendez-vous qui est super, on va avoir des groupes anglais, groupes belges, enfin vous pouvez tout retrouver sur Party Tough sur Instagram ou Facebook. Et après, un gros rendez-vous qu'on n'a pas encore annoncé, mais qui commence à être un peu récurrent, ce sera la deuxième année de Terre Inconnue, qui est le festival de Party Tough, qui est fin avril du 24 au 27, donc du jeudi au dimanche. Donc fin avril, on sort bientôt les infos, on est un peu à la bourre sur des trucs, mais comme d'hab, là, dans les semaines à venir, on va commencer à dévoiler le visuel, puis la programmation qui est... Pour le coup, à l'année, on fait quand même de l'éclectisme, mais on fait souvent des trucs assez post-punk, etc. Là, sur le festival, on essaye d'aller sur d'autres chemins et d'aller voir un peu ailleurs. Et du coup, je pense que ça va être super, encore une fois. Et du coup, on est sur trois lieux, donc La Fosse, le 11-22, parce que ce sera plus ou moins le mois de réouverture. Et le 6x4, parce que, bah, comme je disais, il y a du partenaire... à fond les ballons avec eux, entre Party Tough, 6x4, tous les autres collectifs et assos, donc c'est super, quoi. On travaille en commun, quoi.
Et bah, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Léo. Merci beaucoup pour ce moment.
Avec plaisir, c'était chouette.
C'est le grand format dans la JT. C'est le moment maintenant de l'agenda culturel de la semaine et on le commence à Laval. Ce soir, la scène du 6x4 vibre au rythme de l'électropop solaire et de la pop incandescente. Quasi-limbiste, Maître en élégance musicale nous embarque dans un voyage sensoriel où électronique et organique s'entrelacent. Entre chill wave envoûtante, groove sensuel et éclat méditerranéen, il nous invite à une parenthèse lumineuse à mi-chemin entre l'hédonisme et l'introspection. Et votre soirée sera complétée avec le groupe Michel et les garçons qui allumeront le feu avec leur pop brûlante et androgyne. Après avoir conquis la scène française et franchi les frontières jusqu'au Franco de Montréal, ils reviennent défendre leur tout premier album « Cœur au diable ». Avec synthé des années 80, texte ardent et énergie viscérale, c'est une invitation à plonger dans l'émotion pure. On continue ensuite en se rendant du côté de Château-Gontier, plus précisément au Carré, et on écoute Maël Grenier, directeur du théâtre, nous parler de ce qu'il nous propose ce soir.
Nous accueillerons le 31 janvier la prochaine création de notre nouvelle compagnie artistique associée, la compagnie Fouic. Donc Jean-Christophe Dollet et Clotilde Morgiève qui nous accompagneront pendant 4 années. Et leur prochaine création s'appelle Happy Apocalypse. Donc c'est un joli titre pour parler évidemment d'effondrement, mais d'effondrement joyeux. Ils souhaitent convoquer des, on va dire une base scientifique sur la finitude de notre monde et notamment la question de la courbe de l'expansion du monde qui est peut-être un jour amené à redescendre sous un modèle de décroissance, mais un petit peu sous l'angle de l'univers. Ils souhaitent, à travers leur patte à la fois théâtrale, musicale, avec un récit toujours extrêmement dense, une dramaturgie bien, bien forte, nous amener à nous questionner sur la finitude du monde humain, mais avec beaucoup d'humanité. Voilà, c'est une compagnie qui travaille essentiellement les histoires à travers le spectre et le prisme émotionnel, qui crée un impact assez concret du coup chez les spectateurs. Et on a beaucoup d'espoir dans cette création. Donc voilà, 31 janvier, c'est une découverte et pour le coup, c'est un soutien assez fort au niveau artistique.
On continue maintenant à Sablé-sur-Sarthe au Théâtre L'Entracte. On regarde un peu plus loin, un œil sur la semaine prochaine et c'est Élise, chargée de programmation et de production, qui nous en parle.
Là où vont nos pères, c'est un BD-concert. Florent Hermé s'est inspiré du chef-d'œuvre de Sean Tonn pour créer, seul avec sa contrebasse, une expérience musicale douce et puissante. La BD, qui est sans texte, raconte l'histoire d'un père de famille qui quitte sa femme et sa fille pour traverser l'océan. Il se retrouve dans un pays inconnu où tout est à découvrir, à reconstruire. Il s'agit vraiment d'un moment suspendu qu'on vous propose le 6 et 7 février prochain au Palace Carnot.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Léo d'avoir fini la semaine avec nous dans le grand format de votre émission quotidienne. La programmation continue évidemment et votre soirée commence à 19h avec Dance Hall Social Club qui sera suivi à 20h de l'émission Tempus Fugit avec Fred et Plum. Avant de se quitter, on jette quand même un coup d'œil sur ce qui vous attend ce week-end, samedi à 10h. C'est l'émission Alors on joue et dans cette émission, c'est Aurélie, orthophoniste, qui nous parle de pourquoi et comment elle utilise le jeu dans son cadre professionnel. À 13h, Rock Dreams fera un focus sur le groupe Ramon Pipin. Et alors dimanche à 19h, on termine le week-end en vous parlant de littérature jeunesse avec l'émission On lit quoi nous ? Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local et nous serons avec Isabelle Maignan de l'association Hébergeurs Solidaires 53. D'ici là, faites-vous une promesse, celle de ne rien précipiter ce week-end, de savourer les bons instants, même les plus simples. Et puis aussi, s'il vous plaît, faites-le bien.
C'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.